Chapitre 43. Comme une fleur brisée au souffle de l'orage, la mort la ravit au printemps de son âge. Ma fille, tu ne peux pas imaginer à quel point je m'en suis voulu de t'avoir offert ce kit de magicienne à Noël. Tu as réussi ton tour, tu as vraiment disparu. Et tu as fait disparaître trois de tes camarades, dont Anaïs. Les autres chambres du château n'ont pas été touchées. Ou elles ont été évacuées à temps, je ne sais plus. Ça, j'ai oublié. Que la tienne, que la vôtre, votre chambre à vous, c'était celle qui était la plus proche des cuisines. Un court-circuit, ou une plaque chauffante mal éteinte, ou des aliments qui se seraient enflammés dans le four, ou une fuite de gaz, ou un mégot de cigarette. Plus tard, je le saurai plus tard. Pas de truc dans ton tour de magie, pas de trappe dissimulée dans le sol, pas d'applaudissements, pas de réapparition tonitruante avec musique et salutations. Le néant, des cendres, la fin du monde. Quatre petites vies anéanties, tombées en poussière. À vous toutes, mises bout à bout, vous ne mesuriez même pas 3 mètres. 31 années de petites filles. Après cette nuit-là, vous vous êtes envolées. On se console comme on peut. Vous n'avez pas souffert. Vous avez été asphyxiées dans votre sommeil. Quand les flammes ont commencé à vous mordre, vous étiez déjà partie. Vous étiez en train de rêver et vous y êtes restée. J'espère que tu étais sur un poney, ma chérie, ou dans les calanques à faire la sirène. Après le train de 5h50, je m'étais allongée sur le canapé et je venais de me rendormir. Mon cœur s'est mis à battre dans le désordre quand le téléphone a sonné. J'ai cru que j'avais oublié le 7h04. J'ai décroché. Je venais de rêver que la mère Toussaint m'offrait un ours en peluche, sans yeux et sans bouche, et que je les dessinais avec un de tes feutres. Un gendarme m'a parlé, m'a demandé de décliner mon identité. J'ai entendu ton prénom, Château Notre-Dame-des-Prés. La Clayette, 4 corps non identifiés. J'ai entendu les mots « drame »,« incendie »,« enfant ». J'ai entendu « je suis désolée », encore ton prénom. Arrivé trop tard, pompier, rien pu faire. Je t'ai revu crever ton œuf avec la pâte à pizza et faire disparaître les serviettes pendant que je comptais 3 plats du jour plus 2 menus enfants plus 5 boissons. J'aurais pu ne pas croire l'homme qui me parlait au téléphone. J'aurais pu lui dire « vous faites erreur, Léonine est magicienne, elle va réapparaître. » J'aurais pu lui dire, « c'est un coup de la mère Toussaint, elle me l'a prise et l'a remplacée par une poupée de chiffon qui a brûlé au fond du lit. » J'aurais pu demander des preuves, raccrocher, lui dire, « votre plaisanterie est de très mauvais goût. » J'aurais pu lui dire. Mais j'ai tout de suite su que ce qu'il me disait était vrai. Depuis mon enfance, je n'avais jamais fait de bruit pour qu'on me garde. Qu'on ne m'abandonne plus. J'ai quitté la tienne, ton enfance, en hurlant. Philippe Toussaint est apparu, il a pris le téléphone, il a parlé encore un peu avec le gendarme, il s'est mis à hurler lui aussi. Mais pas comme moi, il l'a insulté. Tous les vilains mots qu'on t'interdisait de prononcer, ton père les a dit, dans une seule phrase. Moi, ta mort m'a anéanti. Après ce cri, j'ai cessé de parler longtemps. Lui, ta mort l'a énervé. Quand le 7h04 est passé, aucun de nous deux n'est sorti pour baisser la barrière. Dieu, qui avait déserté le château de Notre-Dame-des-Prés cette nuit-là, a quand même daigné faire un tour du côté de notre barrière, parce qu'un drame sur la liste de nos vies, ça devait suffire. Aucune voiture n'est passée. Aucune voiture n'est venue percuter le 7h04. À cette heure-ci, cette route était normalement très fréquentée. Pour les barrières suivantes, Philippe Toussaint est allé prévenir quelqu'un, a demandé de l'aide. Je ne saurai jamais qui est venu. Moi, je me suis allongée dans ta chambre et je n'ai plus bougé. Le docteur Prudhomme est arrivé. Je sais, tu ne l'aimes pas, tu l'appelais « sans mauvais » quand il a soigné tes angines, ta varicelle, tes otites. Il m'a fait une piqûre, et puis une autre, et encore une autre, mais pas le même jour. Philippe Toussaint a appelé Célia à l'aide. Il ne savait pas quoi faire de ma douleur. Il l'a refilée à quelqu'un d'autre. Il paraît que les parents de Philippe Toussaint sont arrivés. Ils ne sont pas venus me voir dans ta chambre. Ils ont bien fait. Pour la première et dernière fois, ils ont bien fait. Ils m'ont laissée toute seule. Ils ont pris la direction de la Clayette, tous les trois. Ils sont partis vers toi, vers tes restes, de rien du tout. Célia est arrivée, après, plus tard, je ne sais pas. J'avais perdu toute notion du temps. Je me souviens qu'elle faisait nuit, qu'elle a poussé la porte. Elle a dit « C'est moi, je suis là, Violette. » Sa voix avait perdu tout son soleil. Oui, même dans la voix de Célia, il a fait nuit quand tu es morte. Elle n'a pas osé me toucher. Moi, j'étais en tas, sur ton lit. Un tas de rien. Célia m'a doucement forcé à manger quelque chose. J'ai vomi. Elle m'a doucement forcé à boire quelque chose. J'ai vomi. Philippe Toussaint a téléphoné pour dire à Célia qu'il ne restait rien des quatre corps. Que c'était la désolation. Que vous étiez en cendres. Qu'il ne serait pas possible de vous identifier les unes des autres. Qu'il allait porter plainte. Qu'on allait être dédommagé. Que tous les autres enfants étaient rentrés chez eux, qu'à la place, il y avait des flics partout, que vous alliez être inhumés ensemble, dans le carré des enfants, ensemble, avec notre permission. Il a redit ça, inhumés ensemble, et que, pour éviter les journalistes, la foule, le chaos, ça se ferait dans la plus stricte intimité, dans le petit cimetière de Brancion-en-Chalon, situé à quelques kilomètres de la Clayette. J'ai demandé à Célia de rappeler Philippe Toussaint pour qu'il récupère ta valise. Célia m'a dit que la valise avait brûlé. Célia a répété « Elles n'ont pas souffert, elles sont mortes en dormant ». J'ai répondu « Nous souffrirons pour elles ». Célia m'a demandé si je voulais qu'on glisse un objet ou un vêtement à l'intérieur du cercueil. J'ai répondu « Moi ». Trois jours ont passé. Célia m'a dit que le lendemain, on partirait tôt. Qu'il fallait qu'elle m'emmène à Brancion-en-Chalon pour la cérémonie funéraire. Célia m'a demandé ce que je voulais porter, si je voulais qu'elle aille m'acheter des vêtements. J'ai refusé les achats et j'ai refusé d'aller à l'enterrement. Célia m'a dit que ce n'était pas possible, que c'était impensable. J'ai répondu que si, c'était possible, que je n'irais pas à l'enterrement de ma fille en cendres, qu'elle était déjà loin, ailleurs. Célia m'a dit « Pour faire ton deuil, c'est indispensable. Il faut que tu dises un dernier adieu à Léonine. » J'ai répondu que non, je n'irai pas. Que je voulais aller à Sormiou, dans les Calanques. C'est là-bas que je te dirai au revoir. La mère me relierait à toi une dernière fois. Je suis repartie avec Célia dans sa voiture. Je ne me rappelle pas le voyage. J'étais dans les vapes, sous médicaments. Je ne dormais pas, je n'étais pas éveillée non plus. Je flottais. Dans une sorte de brume épaisse, un état second de cauchemar permanent, où tous les sens sont anesthésiés. Tout, sauf la douleur. Comme ces gens qu'on immobilise pendant une opération, mais qui ressentent tous les gestes du chirurgien. Le curseur du chagrin qui me broyait les os était poussé au maximum de l'insupportable. Respirer me faisait mal. Sur une échelle de 1 à 10, où placeriez-vous la douleur ? Sur indéterminé, infini, perpétuité. J'avais le sentiment qu'on m'amputait toute la journée. Je me disais, mon cœur va lâcher, il va lâcher, le plus vite possible. J'espérais le plus vite possible. Mon seul espoir, c'était mourir. Je serrais deux vieilles bouteilles de prunes contre moi, des bouteilles que Philippe Toussaint avait déjà dans le studio. De temps en temps, j'en buvais une gorgée qui me brûlait à l'intérieur, là où je t'avais porté. Nous avons emprunté la route escarpée pour atteindre la calanque de Sormiou. Cette route s'appelle la route du feu. Je n'y avais pas prêté attention l'année précédente. Je ne me suis pas déshabillée avant d'entrer dans la mer. Je me suis immergée, j'ai fermé les yeux et j'ai entendu le silence. Et j'ai entendu nos dernières vacances, le bonheur. Les larmes à l'envers. Je t'ai tout de suite senti, j'ai senti ta présence. Comme les caresses d'un dauphin qui aurait frôlé mon ventre, mes cuisses, mes épaules, mon visage. Quelque chose de doux qui allait et venait dans les courants d'eau autour de moi. J'ai senti que tu étais bien là où tu étais. J'ai senti que tu n'avais pas peur. J'ai senti que tu n'étais pas seule. Avant que Célia me saisisse par les épaules et me remonte à la surface, J'ai clairement entendu ta voix. Tu avais la voix d'une femme, une voix que je n'entendrai jamais. Je pense avoir perçu... Maman, il faut que tu saches ce qui s'est passé cette nuit-là. Je n'ai pas eu le temps de te répondre. Célia a hurlé « Violette ! Violette !» Des gens, des vacanciers en maillot de bain comme nous l'année passée, l'ont aidée à me ramener au bord. Juste au bord.